Victor, l'enfant sauvage. XVI Thermidor, an 8 de la République. L'Institut des Sourds-Muets, rue Saint-Jacques à Paris, n'existe que depuis quelques années. C'est l'abbé Sicard qui dirige l'établissement, et le jeune docteur Itard en est le médecin. Les deux hommes bavardent dans la cour.
Avez-vous déjà entendu parler de l'enfant sauvage de l'Aveyron, docteur ?
On ne parle que de cela depuis qu'il est question de l'envoyer à Paris.
Ce petit sauvage a été capturé près du village de Saint-Cernin et il a fait un séjour de quelques semaines à Rodez. Ces messieurs de l'administration veulent en avoir le cœur net et ont demandé de le transférer à Paris. Le ministre a donné son accord. Regardez.
Quoi donc ? Ce tas de chiffons ?
Ce n'est pas un tas de chiffons, c'est lui.
Qui ?
L'enfant sauvage. C'est à nous qu'on l'a confié.
Mon Dieu !
Comme vous dites. Venez voir.
Les deux hommes s'approchent d'une forme sombre, comme un chien noir, efflanqué, figé dans une immobilité insolite, attaché à un arbre par un bout de corde.
Attention, il mord.
Le chien s'est transformé en une créature pelotonnée, crasseuse, vêtue d'une chemise en lambeaux.
Le voici donc, cet enfant sauvage. Bonjour.
Oh, vous fatiguez pas. Il paraît qu'il ne réagit à aucun son et qu'il n'articule aucun mot. C'est pour ça qu'on nous l'a envoyé. Oh, il pue. Il a encore fait sur lui, ça ne le dérange pas. Il piétine cette matière qui forme sur ses pieds une croûte épaisse.
On lui a jamais donné un bain ?
Oh, mais bien sûr que si, mais non sans peine, ni sans égratignure pour celles qui l'ont baigné. Aussitôt propre, il se vautre dans l'ordure.
Il y a longtemps qu'il est ici ?
2 semaines. À propos, vous nous avez négligé, docteur, ces temps-ci.
Oh, j'ai eu beaucoup de travail au Val-de-Grâce. Et vous dites que cet enfant est sourd ?
Oh, moi, je n'en suis pas certain. Le citoyen Bonnaterre à Rodez nous a affirmé qu'il l'avait vu réagir à certains bruits. Je vous montrerai son rapport.
Sicard sort de sa poche une noix et un casse-noix. Il place le fruit entre les branches du casse-noix et... Au premier craquement de la coquille, le petit sauvage apathique bronche un peu. Il soulève la tête.
Vous voyez, est-il possible qu'un enfant sourd à tout ce qui l'entoure, au bruit d'une détonation, sourd au son de la voix humaine, puisse entendre le craquement d'une noix ?
C'est très surprenant, en effet. Il a très certainement... Enfin non, je ne sais pas. Le cas de cet enfant est passionnant. Pourrais-je rester un instant avec lui ?
À votre aise. Mais méfiez-vous. Il mord comme un rat. Ne le touchez pas. Si vous jugez le cas intéressant... Il pourrait vous être confié. La Société des observateurs de l'homme connaît votre intérêt pour les sourds-muets. Vous pourriez être à la fois le médecin de l'établissement et ce petit sauvage serait en quelque sorte une mission qui vous serait confiée. Quant à moi, après 15 jours d'essai d'apprivoisement, je déclare forfait.
Pauvre gosse.
Le docteur Itard prend quelques pièces dans sa poche et les fait tinter. L'enfant ne bouge pas. Quand la cloche sonne, il ne bouge pas plus. Alors, le docteur Itard se baisse, ramasse les petits morceaux de noix qui sont tombés par terre, les pose bien à plat sur la paume de sa main et les présente comme quand on donne à manger à un cheval pour éviter d'être mordu, la main ouverte et tendue. Alors, le petit sauvage lève la tête. Il renifle l'air. Puis, il jette la tête en avant et avec sa bouche, caresse la main d'Itard. Comme pour un bref baiser. Et tous les morceaux de noix ont disparu. Le docteur Itard a eu le temps de voir son visage. Des yeux noirs, de longs cils frangés, et surtout, le bourrelet d'une cicatrice énorme qui lui barre la gorge.
Bon Dieu, on a tenté de l'égorger. Pauvre enfant, peut-être a-t-il été nourri par une louve. Peut-être ses parents ont-ils essayé de le tuer. On ne peut pas le laisser dans cet état, non, on ne peut pas.
Il a été examiné par Pinel, il était récupérable.
Il faut que je voie Pinel.
Et d'abord, qui est ce jeune docteur Itard ? Il est né en Provence en 1774. Il a été pris dans la levée en masse décrétée pour sauver la patrie en 1789. Mais son oncle, qui est prêtre, l'a fait incorporer à l'hôpital militaire de Toulon. Il n'a pas fait d'études de médecine, mais c'est un garçon qui a passé 10 ans chez les oratoriens. Il se cultive sans arrêt. Et à l'hôpital de Toulon, il a fait la rencontre qui a décidé de sa vocation.
Il a la chance à ce moment-là de rencontrer Dominique Larrey, qui est le chirurgien de cette armée. Et Dominique Larrey l'emmènera à Paris en 1797 quand il va remonter à Paris. Voilà comment commence la carrière médicale d'Itard. Dominique Larrey organise des cours de médecine, des cours sur des cas particuliers qu'il a là sous les yeux. Alors Itard, investi de cette fureur médicale, en quelque sorte, par un très très grand médecin, monte à Paris avec lui. Il est aussi recommandé dans le début de ses études par Barras, qui est le fameux Paul de Barras, le vicomte rouge, provençal lui aussi. On ne sait pas quels peuvent être par ailleurs les liens entre Barras et Itard, mais il y a un manuscrit au ministère de la Guerre où Barras recommande, et c'est vraiment un mot de recommandation, pistonne en quelque sorte, on dirait aujourd'hui, pistonne Itard pour qu'il soit intégré à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Comme ça qu'on se rapproche de l'enfant sauvage. Donc Itard est pistonné par Barras pour entrer au Val-de-Grâce comme chirurgien de troisième classe. Et n'oubliez pas que le Val-de-Grâce, c'est presque en face de l'institution des sourds-muets.
Là, on est en quelle année ?
Là, on est en 1797, quand il monte à Paris. Il s'inscrit à l'école de médecine de Paris, où on trouve sa trace à partir de 1797 également. Il signe les registres de présence. Et Itard a été élevé par les oratoriens de Marseille. Or, l'Institut des sourds-muets avait été, jusqu'à la Révolution, la maison mère des oratoriens. Itard a bien évidemment entendu parler de Saint-Magloire, c'était le nom de l'Institut des sourds-muets de Paris, où nous sommes là, et où il a vécu. Il avait bien évidemment entendu parler de Saint-Magloire. Lorsque l'abbé Sicard, réinstallé ici depuis quelques mois, fait un jour demander au Val-de-Grâce un médecin parce qu'il y a un incident avec un élève. C'est Itard qui se présente et l'amitié naît tout de suite entre les deux et Itard sera régulièrement demandé pour venir soigner les jeunes sourds et même finalement, à partir de décembre 1799, le nouveau règlement de l'institution des sourds et muets fait obligation de la présence d'un officier de santé, eh bien ce sera Itard qui sera nommé, alors qu'il n'est qu'étudiant en médecine, il n'est pas encore médecin. Un officier de santé, c'était une espèce de sous-médecin.
Et voilà pourquoi Itard se trouve dans cette cour de l'Institut des sourds-muets, au moment où arrive l'enfant sauvage.
Doucement, viens, viens. Là, là, allez. Tiens-toi. Taille 1m37. Voilà, voilà. Âge apparent 11 ans. État de la denture. Là, allez, ouvre. Là, là. Saine et pointu.
Alors, qui peut-il être cet enfant sauvage ? D'où vient-il ? Comment est-il arrivé ici ?
Il a dû naître avec la Révolution française, 1889-1890, et on commence à l'apercevoir dans les années 95. Il est capturé une première fois en 97, il se sauve, de nouveau il retourne vers les bois de la Cône, et puis il sera recapturé en 99, et s'échappera de nouveau pendant l'été 99, il s'échappera de nouveau, mais au lieu de retourner vers les bois de la Cône, c'est-à-dire vers la montagne, il ne reste pas sur le Tarn, il descend vers l'Aveyron, il descend le long des cours d'eau, et il sera capturé le long d'un cours d'eau au pied du village de Saint-Cernin, le 8 janvier 1800. Dans un premier temps, il est gardé 2 jours chez le représentant local du gouvernement, puis transféré à l'hospice de Sainte-Afrique pendant un mois, puis à Rodez. Et c'est, au fond, son transfert à Rodez qui va à la fois le sauver, parce qu'il serait probablement mort, comme la plupart des enfants qui étaient recueillis dans les hospices, où les hospices ne pouvaient même pas les nourrir, il n'y avait plus d'argent, et les enfants mouraient de faim. Les enfants abandonnés, c'était un enfant abandonné au départ. Le représentant départemental du gouvernement, cette fois, demande à un éminent botaniste installé à Rodez, l'abbé Bonnaterre, lui demande de recevoir l'enfant chez lui jusqu'à ce que le gouvernement ait statué sur son sort.
Le gouvernement de Bonaparte a réagi aussitôt. Lucien Bonaparte, qui est ministre de l'Intérieur, réclame l'enfant. Mais il n'y a pas que lui. La Société des observateurs de l'homme la réclame aussi. La bibliothèque de l'Institut possède cette correspondance officielle, n'est-ce pas, docteur Gineste ?
Le 1er février 1800... 1er février 1800, donc moins d'un mois après sa découverte dans le sud de l'Aveyron, Lucien Bonaparte écrit au préfet « Citoyen, j'apprends par les journaux qu'il a été trouvé dans les bois de votre département un jeune homme qui ne sait que pousser des cris confus et ne parle aucune langue. » Et Lucien Bonaparte poursuit « Si le fait est exact et si vous n'avez point d'espoir de découvrir les parents de cet infortuné, je le réclame et vous prie de me l'adresser sans délai. Salut et fraternité, Lucien Bonaparte. » Et juste auparavant, quelques jours auparavant, Geoffrey, secrétaire de la Société des observateurs de l'homme, de la même manière que Lucien Bonaparte, il réclame l'enfant en terminant la lettre. « Ce serait de votre part une œuvre bien méritoire que de faire conduire cet enfant à Paris. » Alors, la Société des observateurs de l'homme et Lucien Bonaparte se connaissent bien, si je puis dire. La Société des observateurs de l'homme, c'est tout ce que la Révolution française a laissé de savants non exécutés. Il y a dans la Société des observateurs de l'homme des savants de toute origine. Il y a des philosophes, des historiens, ce qu'on appellerait aujourd'hui des ethnologues, des médecins, des grammairiens. Il y a là un bassin de personnes qui réfléchissent, qui ne sont plus dans un carcan administratif et universitaire et qui se regroupent, qui fondent cette société dite des observateurs de l'homme et qui a pour but de déterminer ce qui fait que l'homme est un homme, Qu'est-ce qui fait la spécificité humaine? Alors vous pensez bien que cette société qui se fonde en décembre 1799 à Paris et qui voit arriver un enfant dont on affirme qu'il a été séparé de tout contact humain depuis sa naissance, c'est exactement le sujet de ce qu'elle se propose comme recherche. Qu'est-ce qui fait de l'homme un homme?
Le docteur Itard va donc voir Pinel, le grand Pinel, qui fait autorité en matière de médecine, l'homme qui a écrit plusieurs traités, l'homme incontournable dont on ne discute pas le jugement.
Je n'ai pas encore formulé mes conclusions, mais à vous, mon cher confrère, je puis les communiquer. J'ai donc d'abord étudié les fonctions sensorielles de l'enfant. Ses sens sont réduits à un tel état d'inertie que cet infortuné se trouve bien inférieur à certains de nos animaux domestiques. Ses yeux sans fixité, sans expression, errent d'un objet à l'autre sans jamais s'arrêter. L'organe de l'ouïe est inexistant. Il est insensible aux bruits les plus forts comme la musique. Sa voix, si l'on peut appeler cela une voix, ne laisse échapper que des sons gutturaux. L'odorat est si peu cultivé qu'il reçoit avec la même indifférence l'odeur des parfums et l'exhalaison fétide des ordures dont sa couche est pleine. Enfin, l'organe du toucher est restreint aux fonctions mécaniques. Il marche et court à quatre pattes comme les animaux. Il semble insensible à toute espèce d'affection morale. Seul compte sa gloutonnerie. Il est dépourvu de tout moyen de communication, n'attachant ni expression ni intention aux gestes et aux mouvements de son corps. Toute son existence est une vie purement animale. Le diagnostic est clair. C'est un cas typique d'idiotisme. Vous avez déjà vu cet enfant ?
Je l'ai vu.
Qu'en pensez-vous vous-même ?
Son déficit n'est peut-être dû qu'au manque d'entourage humain et de stimulation appropriée. S'il a vécu seul dans la forêt pendant 7 ou 8 ans, il a forcément perdu...
Oui, bon, et alors ?
Alors ? Il n'y a peut-être rien de définitif. En tentant une approche culturelle, en situant l'enfant dans un milieu adapté, en faisant patiemment son apprentissage, il serait peut-être possible de réformer sa pensée et ses conduites. Et qui sait ? Le faire parler ?
D'une bête capturée l'an dernier, vous voulez faire un enfant qui...
Je ne dis pas ça. Je pense que s'il y a une chance de pouvoir le sortir de son état actuel, nous devons la saisir. Si l'on veut me confier cet enfant, je veux bien essayer.
Bien. Très bien. Je ne manquerai pas de mentionner cela dans mes conclusions. Si le ministre et la Société des observateurs sont d'accord, nous pourrons vous confier l'enfant... à titre d'essai et pour l'enrichissement de la science. Avez-vous un lieu pour le recevoir ?
J'ai un appartement à l'Institut et une gouvernante qui est la patience même, Madame Guérin. Elle se fera un devoir d'accueillir cet enfant.
Dans ce cas, bonne chance, docteur.
Pourquoi Itard ne raisonne-t-il pas comme Pinel, qui est un médecin d'une bien plus grande expérience ?
Itard, qui n'est lui pas encore embarrassé au fond avec un appareil de pensée médicale comme peut l'être Pinel, qui a près de 60 ans à ce moment-là. Itard en a 26. Dans l'exergue du premier rapport qu'il écrit et qui sera publié en 1801, eh bien, il cite Condillac, je cite, « Quand on dit que cet enfant ne donnait aucun signe de raison, ce n'est pas qu'il ne raisonna suffisamment pour veiller à sa conservation, mais c'est que sa réflexion, jusqu'alors appliquée à un seul objet, n'avait point eu occasion de se porter sur ceux dont nous nous occupons, nous autres qui avons de la raison, hein ?» Le plus grand fond des idées des hommes est dans leur commerce réciproque, point Condillac. Donc c'est ça, pour Itard, la cause de l'idiotisme de cet enfant.
Donc Il est convaincu que si l'enfant est sans langage et sans pensée construite, c'est parce qu'il n'a pas bénéficié d'être en société, d'avoir grandi parmi les hommes.
Voilà. Le génie d'Itard, c'est même s'il a une culture philosophique, même s'il s'y réfère d'une certaine façon, eh bien, ce qu'il indique dans ce qu'il va puiser dans sa culture philosophique, c'est un horizon qui n'est pas fermé. L'horizon qu'il va essayer de comprendre, l'horizon de ce qui, dans les liens entre un enfant et les autres, principalement ses parents, bien sûr, dans ce que un enfant doit nécessairement puiser pour devenir un être humain à l'intérieur de ses liens.
Pinel a attendu 6 mois avant de sortir son rapport. Nous avons le document original sous les yeux. Voulez-vous résumer ce rapport, docteur ?
Voilà. Rapport fait à la Société des observateurs de l'homme sur l'enfant connu sous le nom de Sauvage de l'Aveyron par Philippe Pinel, professeur de l'école de médecine et membre de la Société des observateurs de l'homme. Donc, ce rapport, 29 novembre 1800, Pinel le divise en plusieurs parties. C'est un rapport extrêmement structuré. La première partie, état actuel des fonctions organiques et des facultés morales de l'enfant connu sous le nom de Sauvage de l'Aveyron. Deuxième partie, qui lui permettra de comparer ce premier tableau clinique, le tableau de l'enfant sauvage de l'Aveyron, avec d'autres enfants. Donc la deuxième partie, notice sur plusieurs enfants ou adultes dont les facultés intellectuelles ou affectives sont plus ou moins lésées. Et puis, après avoir dressé ce tableau, il se propose d'examiner les vérités, écoutez bien, qui doivent en résulter. Donc il est tout à fait sûr de lui. Et il indiquera si le prétendu sauvage de l'Aveyron peut être soumis avec un espoir fondé à une sorte d'institution et de culture, c'est-à-dire donc à une prise en charge psychologique, pédagogique, tout ce que vous voulez, ou bien s'il faut abandonner cette riante perspective et s'il faut le confiner seulement dans nos hospices avec les autres victimes infortunées d'une organisation incomplète et mutilée. Donc vous voyez, avant même qu'il ait donné ses conclusions quant au diagnostic, les dernières phrases de ce premier exposé nous indiquent bien qu'en réalité, il faut le confiner seulement dans nos hospices avec les autres victimes infortunées d'une organisation incomplète et mutilée. Pour lui, l'affaire est entendue.
Tout cela, évidemment, n'arrange pas les projets d'Itard. Le grand patron de la médecine lui savonne la planche, qu'importe. Itard persiste. Il croit en son petit sauvage. Ce qui est dramatique, c'est que à Rodez, chez le brave abbé Bonaterre, l'état de l'enfant en liberté s'était plutôt amélioré. Il s'était apaisé. Et là, maintenant, à l'Institut, on le replonge dans un état d'enfermement.
Il y a eu une sorte d'aggravation de son état pendant ces 6 mois, parce qu'en réalité, on ne s'est pas occupé de lui au tout début. L'administration n'a pas donné son autorisation pour l'éducation encore.
Donc il est abandonné à lui-même.
Il est livré à lui-même, absolument, sous la surveillance, j'allais dire disciplinaire simplement, d'un surveillant qui, nous disent les textes, le maintient enfermé dans une chambre à l'entresol avec quelques moments de promenade dans le jardin pendant 6 mois. Alors qu'il sort de 6 mois où il a été, j'allais dire, chouchouté par l'abbé Bonaterre. Et puis Itard s'y intéresse. Alors, il y a quelques moments où les savants viennent le voir, Pinel fait son rapport Mais tout ça reste très extérieur, ça ne veut pas dire qu'on le prend en charge à ce moment-là. Hein. Et printemps 1801, Itard fait son mémoire et commence à s'occuper de lui. Mais donc, un an et demi après son arrivée à Paris.
Itard demande à l'administration deux choses. D'engager et de rémunérer Madame Guérin, qui va s'occuper de l'enfant à temps plein, et faire cesser la curiosité journalistique et aussi celle du public qui considère que cet enfant est un spectacle. Il obtient l'un et l'autre, mais malheureusement, entre-temps, le ministre de l'Intérieur a changé. C'est Chaptal qui est ministre. Et d'entrée de jeu, le ton n'est plus le même.
Il n'en est pas question. Je n'engagerai aucune dépense relative au traitement proposé pour ce sauvage. Étant donné les infirmités dont il est affecté, les bêtudes de l'intelligence, une espèce de folie, il doit être placé définitivement à Charenton, où l'État pourvoira à ses besoins.
Au moins, monsieur le ministre, au nom de la science, permettez que l'expérience soit poursuivie quelque temps. Nos plus grands scientifiques sont curieux...
D'accord. Un an. Si dans un an, il n'y a aucun progrès, nous prendrons des mesures et nous vous retirerons l'enfant.
Merci, monsieur le ministre.
Un an, mon bonhomme. Nous avons un an, c'est peu. Il va falloir m'aider. Regarde-moi. Non, regarde-moi. Là, dis A. E. Et c'est I. I. O. Essaye. O. Regarde, ce que tu bois là dans le bol, c'est de l'eau. O. Oui. Oui, c'est ça. Tu n'es pas sourd. Ça, c'est de l'eau. Eau. Bien. Madame Guérin, apportez-moi du lait. Tu vas voir. Tu aimes bien le lait. Le lait. Regarde. Ça, le lait. Tu en veux? Regarde. Lait. Oui, très bien. Tiens, bois. Je vais commencer mon rapport sur les premiers développements physiques et moraux du jeune. Du jeune qui, au fait? Tu n'as même pas de nom. Mais comment vas-tu t'appeler? Il faut un prénom qui te fasse réagir. Quelle est la syllabe, la voyelle qui te fait réagir? Peut-être le O? O? Oui, tu lèves la tête. Alors voyons, cherchons un prénom avec la consonance O. Auguste, non, il faut une finale en O pour appuyer sur le O. Nestor, non, ce n'est pas très beau. Victor? Ah, Victor, oui, tu réagis. Victor? Allons-y pour Victor. Tu seras Victor. Te voilà baptisé. Mon cher Victor, au travail.
Victor est un très bon choix, car on joue actuellement au théâtre un mélodrame qui fait un triomphe, Victor ou l'enfant de la forêt. Est-ce un hasard? Le succès de cette pièce est tel qu'on en donne trois versions différentes dans trois théâtres différents. La romance de l'enfant de la forêt est chantée dans tout Paris. quels que soient les motifs de ce choix, Victor est entre les mains du docteur Itard. Celui-ci s'attache à rendre leur travail le moins fastidieux possible.
Itard va essayer de mélanger le plaisir de Louis avec un besoin physiologique qui est une nécessité à ce moment-là de boire. Hein. Alors si c'est le son O, ce sera de l'eau. Si c'est le son E, ce sera du lait. À chaque fois, on essaiera d'associer un son avec un plaisir et un besoin nutritif, par exemple.
Alors est-ce que ça marche, ça ?
Mais non, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas du tout.
Mais non, ça ne marche pas, probablement d'ailleurs pour une grande raison, qui est qu'on a passé le moment de l'apprentissage. Au bout du compte, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne parlera jamais. Alors, il y a effectivement, Itard nous dit, mais peut-être parce qu'il veut y croire, et il veut croire que pour l'avenir, on est au tout début de la prise en charge, hein, il veut croire que cette capacité de prononcer avec pertinence le mot « lait » pour en demander un bol, il veut croire que c'est le début de la mise en place de quelque chose qui un jour sera le langage. Mais on est en 1801, on est au tout début. J'allais dire, il prend ses désirs pour des réalités d'une certaine façon.
Dans l'appartement du docteur Itard, le petit sauvageon semble heureux. En tout cas, il est en liberté. Itard le fait travailler tous les jours, car il espère bien lui donner la parole.
Le lait. Non, non, non. Lait. Lait. Oui. Ça, c'est un A. Oui. Ça, c'est un I. Un I. Et ça, un U. Non, 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 non. U. U. Non, 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 non. Oh. A, U. U. Victor, Victor, U. Ah, ce n'est pas bien, Victor. Il ne faut pas casser. C'est défendu. Oui, oui. Allez, viens, on va faire un tour en forêt. Tu grimperas aux arbres.
Oui.
Le mémoire du docteur Itard est lumineux. Il présente l'apprentissage de l'enfant et la progression obtenue en 5 rubriques, 5 vues, comme il les appelle.
L'attacher à la vie sociale en la lui rendant plus douce que celle qu'il menait. Réveiller sa sensibilité nerveuse par stimulation des énergies et par les vives affections de l'âme. Étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux et en multipliant ses rapports avec les êtres environnants. Le conduire à l'usage de la parole par l'exercice de l'imitation. Exercer sur les objets ses besoins physiques, les opérations de l'esprit, en déterminant ensuite l'application sur des objets d'instruction.
Autrement dit, le docteur Itard s'attache à façonner les sens, la sensibilité nerveuse, la pensée de l'enfant. À la bibliothèque de l'Institut, nous avons devant nous ce mémoire du docteur Itard, où il développe toutes ses vues. On sent bien qu'Itard veut y croire.
Distraction continuelle du sens de l'ouïe en raison de l'occupation que fournissent à celui de la vue les objets qui l'entourent. Le moindre dérangement dans la disposition des meubles ou dans les vêtements, le plus léger mouvement des personnes autres que lui, un changement un peu brusque dans la lumière solaire, tout attire ses regards. Tout est pour lui motif d'un déplacement.
Victor arrive maintenant à prononcer les voyelles, sauf le U, et trois consonnes, le L, le D et le J mouillé. Victor préfère le langage à pantomime.
Il suffit à Madame Guérin pour l'envoyer quérir de l'eau, de lui montrer la cruche et de lui faire voir qu'elle est vide en la renversant. Avant-hier, nous avons fait un pas de plus. J'ai fait tailler par un menuisier des lettres en bois pour former des mots. Victor en a pris quelques-unes dans sa poche avant d'aller chez le citoyen Lemery, chez qui il va souvent goûter. En arrivant, il a sorti ses lettres et il en a étalé quatre sur la table. L, A, I, T. Lait. Il demandait du lait. Bien sûr, Lemery lui en a donné un bol pour le récompenser. Mais après avoir bu, comme Lemery voulait lui retirer le bol, il l'a mordu.
Ah ! Petit sauvage ! Docteur, j'admire beaucoup votre patience, mais à la vue d'une créature aussi barbare, on conçoit ce que l'Église entend par le péché originel. Si l'on voulait la preuve que l'homme a besoin de la parole divine pour le civiliser, eh bien cet enfant en est une.
Mais mon ami, vous savez bien ce que dit Jean-Jacques Rousseau. L'enfant ne naît pas entaché du péché originel, mais innocent au contraire. Ses instincts le portent naturellement vers la liberté et la satisfaction de ses besoins. Ce qui est le cas de...
Démonstration éloquente. Êtes-vous aussi chargé, docteur, de lui apprendre les usages du monde, de lui apprendre à bien se tenir à table, à bien péter dans son pot de chambre?
Ma préoccupation essentielle est tout autre.
Elle ne concerne pas les paix.
Non, des aspects plus... Victor, ça suffit! Regardez! Regardez, citoyen, ce que fait cet enfant. Il va chercher mon chapeau et ma canne pour me faire comprendre qu'il veut partir. N'est-ce pas étonnant?
Ma foi, je ne vois rien d'extraordinaire à cela. Docteur, mon chien en fait autant quand il veut sortir pour pisser.
Oui. Viens, Victor, il se fait tard. Ça suffit!
C'est un combat permanent d'Itard contre l'administration qui ne croit plus du tout à la récupération de cet enfant. Itard multiplie ses interventions, ses visites, ses demandes. Il apporte les preuves que les choses progressent lentement. Il fait sortir Victor. Il l'emmène au restaurant ou dans les grands dîners, chez des personnages très importants, chez Madame de Récamier par exemple.
Victor, tu t'assieds à côté de cette belle dame et tu ne bouges pas, c'est compris.
Un serviteur arrive avec un plat de haricots. Victor se lève d'un bond, prend son assiette et va la planter dans le ventre du serviteur qui recule avec son plat.
Victor, un peu de patience, tu seras servi.
Donnez-lui donc ces haricots avant le consommer. J'imagine que dans les bois de l'Aveyron, on a des mœurs différentes.
Dans les bois de l'Aveyron, monsieur...
Madame de Récamier.
Le temps de se retourner, Victor a disparu.
Où est-il passé, Victor? Victor, viens ici. Mais où est-il?
Oh, regardez, là, dans le jardin... Il est tout en haut du tilleul. Et tout nu.
Tout nu.
Victor, descends de là. Descends de là, nous partons.
Au niveau des... des résultats, est-ce qu'il y a quand même quelques résultats positifs? Au début, Victor est apathique, mais peu à peu, il va s'apprivoiser, il va aimer les compliments, il devient de plus en plus social, il devient propre.
Oui.
Et à la fin, il est heureux d'aller dîner en ville.
Il est heureux d'aller dîner en ville avec moi, Ita.
Ça, c'est quand même un comportement social assez oui. élaboré.
J'imagine ce qu'a dû être, par exemple, ce dîner chez Madame Récamier. En réalité, quand on va lire les mémoires qui nous racontent ce fameux dîner, il est venu avec l'enfant sauvage au château de Clichy, et puis ce sont les domestiques qui se sont occupés du sauvage. Il n'est pas resté à table où il y avait là des convives très priés, vous voyez.
Il faut avouer que les progrès de Victor ne sont guère spectaculaires. Itard est parfois découragé, épuisé.
Victor. Sais-tu que voilà 5 ans que nous travaillons ensemble? Cela fait beaucoup de temps, n'est-ce pas? Des heures et des heures, seul avec toi. Plus de temps que je n'en ai jamais passé avec un autre être humain. Comment te blâmer si les rêves que j'avais faits pour toi n'étaient pas réalisables? Pour évaluer correctement tes capacités, on ne devrait te comparer qu'à toi-même. À l'enfant que tu étais quand tu es arrivé. Bien entendu, et c'est triste à reconnaître, ils ont raison. Tu n'es qu'un idiot. Et moi, j'ai prouvé qu'on pouvait éduquer un idiot. J'ai sans doute eu tort de croire que l'environnement de l'être humain concourt à sa formation. Et pourtant, je ne m'y résous pas encore. Je suis persuadé qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qu'il ne m'est pas possible de connaître. Je me tiens devant une porte immense. J'ai dans la main ton trousseau de clés. Comme toi, je ne sais pas m'en servir. Ce ne sont peut-être pas les bonnes clés. Pas la bonne porte. Je sais seulement que toi et moi, nous avons des clés. Je vais essayer de tirer gracieusement mes révérences. Victor. Madame Guérin saura prendre soin de toi. Ne te fais aucun souci. Tu vas trouver une vie sûre et confortable. Tu ne seras plus jamais seul. Mon cœur craque comme une branche. Tu as trop pesé sur lui. Je l'ai constamment senti tendu au point de se rompre. Plier ou se rompre, Victor. Et parfois les deux à la fois. Il est trop tard pour te renvoyer dans la forêt. Buvons ensemble un dernier verre d'eau. Pour tout ce que tu m'as enseigné, Victor, je te remercie.
Mais Itard n'a pu se résoudre à cette séparation brutale. Il a demandé au ministre une prolongation du traitement. Entre-temps, le ministre a encore changé. Et c'est maintenant Champagny qui est en poste. Et Champagny a pour secrétaire général Desgérandeau, qui est un ami d'Itard. Ainsi, l'administration des sourds-muets n'aura plus à se justifier constamment. Madame Guérin sera payée régulièrement et même son salaire augmenté. Nous sommes en 1805. Itard est submergé de travail. Peu à peu, il délaisse son enfant sauvage. Il n'abandonne pas les petits sourds de l'Institut, mais il a un cabinet en ville. Il n'a plus beaucoup de temps pour s'occuper de Victor, qui grandit, qui devient un adolescent. Et un adolescent qui, malheureusement, retombe dans son premier abrutissement. Bien sûr, Itard défend son petit sauvage. Il écrit au ministre
entre l'existence moins qu'animale qu'avait cet enfant et son état actuel, il y a une différence prodigieuse.
Mais les rapports des experts se multiplient et se rejoignent.
Il est imbécile à un haut degré. Nous n'avons pu nous convaincre qu'il ait le sens de Louis. Il balance sans cesse le haut du corps et la tête. Nous pouvons nous prononcer avec certitude que jamais on ne pourra en obtenir davantage.
L'administration et même l'Institut des sourds-muets en ont assez et réclament l'exécution des premières mesures ministérielles qui voulaient confier Victor à une autre institution. Il ne reste plus à Madame Guérin et à son protégé qu'à déménager. Le docteur Itard leur a trouvé un logement, impasse des Feuillantines près du Val-de-Grâce. Et un matin, une charrette emporte un vieux lit, un matelas, des couvertures, et par-dessus tout ça, Victor, hilare, heureux de quitter l'institution. Madame Guérin, elle, est désolée. Le docteur Itard sait bien que c'est la fin. Il est arrivé au bout de ses possibilités humaines. Son découragement se lit dans son dernier rapport, qui est là, sous nos yeux.
Si les progrès de cet enfant vers la civilisation, si mes succès pour les développements de son intelligence ont été jusqu'à présent si lents et si difficiles, je dois m'en prendre surtout aux obstacles sans nombre que j'ai rencontrés pour remplir cette troisième vue. Et c'est celle où il échouera, si je puis dire. Enfin, il échouera dans sa tentative, parce que l'échec d'Itard, j'allais dire, c'est la gloire de sa démarche, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est tous les jours, pendant 5 ans, il s'est occupé de cet enfant. Certes, bon, il finira par y renoncer, parce que l'enfant aura atteint la puberté. Il quittera l'école en 1811, enfin l'institution en 1811. Mais quand il arrêtera de s'occuper de lui, après le deuxième mémoire, l'enfant aura atteint la puberté, il se présentera d'une manière très difficile pour tout le monde. Hein. C'est un enfant qui ne parlera jamais, c'est un enfant qui grossira énormément, il sera devenu obèse. C'est un enfant qui présentera des activités, nous dirions aujourd'hui, hébéphréniques, catatoniques, notamment dans le registre de la sexualité. Il passera ses journées à se masturber partout où il se trouvera. Il faut essayer de se représenter cela, hein, pour se dire qu'il fallait vraiment avoir une sorte d'audace intellectuelle et personnelle pour, à ce moment-là, dire « mais c'est un homme comme moi, malgré tout ». Le pari, et c'est ça qui est fondateur de la médecine mentale, c'est que c'est un homme comme vous et moi, cet enfant. C'est tout de même ça. C'est vrai que cette audace, cette inventivité d'Itard, elle se situe juste au décours de ce grand chambardement des mentalités qu'a constitué l'époque de la Révolution française. Ce moment lui a permis de considérer que certains épisodes de la Révolution étaient guidés par l'aliénation de ceux qui avaient fabriqué certains éléments tragiques de cette époque, mais que aussi il y avait en chacun d'entre nous quelque chose de cette folie qu'il pouvait dénoncer chez les uns et chez les autres, et c'est en s'appuyant au fond sur cette communauté intérieure de, entre guillemets, folie, que Itard peut se sentir en quelque sorte le frère humain de l'enfant de l'Aveyron. Il ne le déporte pas dans un ailleurs qui ferait de lui un autre. Je pense que c'est, de ce point de vue-là, un fils de la Révolution française. Il a découvert les abîmes qui peuvent habiter l'homme, et il a inclus cela dans la psychopathologie. C'est un petit peu ce que dit Pinel à propos du traitement moral. C'est par la partie saine qu'il y a dans le fou que l'on peut s'approcher du fou. Et Itard dit, il y a dans tout homme quelque chose de sombre et d'incompréhensible, et c'est par ce sombre et cet incompréhensible en moi que je vais me rapprocher de l'enfant sauvage, on dirait aujourd'hui de l'enfant autiste.
Victor est mort paisiblement chez Madame Guérin au commencement de l'année 1828, à l'âge de 40 ans environ. Plus personne n'en parlait. À l'Institut des jeunes sourds, où Victor, Madame Guérin et le docteur Itard ont vécu, le souvenir est-il resté entre les murs ?
Les élèves connaissent l'histoire de l'enfant sauvage, de son passage ici. Est-ce qu'éventuellement on peut leur poser la question ?
On peut leur poser la question, oui, tout à fait.
Bonsoir.
C'est une dame qui travaille à la radio, à France Inter, et qui fait un reportage sur l'enfant sauvage. Est-ce que vous avez entendu parler ?
J'ai entendu, oui, mais jamais vu.
Jamais vu, non. Il est mort il y a à peu près 200 ans.
D'accord.
Donc, tu es encore trop jeune. Même moi, je suis trop jeune.
Comme les mammouths.
Alors, pas comme les mammouths. Non, il y a 200 ans, quand même, pas tout à fait. Mais toi, tu avais entendu parler un petit peu?
Oui, de... j'ai vu aussi la pub tout à.
Tu as vu le film au cinéma?
Ah non.
Le film, il avait été... ça a été filmé ici, dans l'école, ici.
Ah bon?
Oui.
Tout fait.
Par un monsieur qui s'appelle François Truffaut. Dehors, la place en face du lycée professionnel s'appelle, souvenir, hein, la place François Truffaut.
C'est un des, bon, pour nous, les pédagogues spécialisés, ça fait partie des grands noms. Il y a l'abbé de l'Épée au départ, mais après, il y a des grands noms comme Sicard, comme Bébian, comme Itard. Bon, c'est un certain nombre, ou de médecins ou de pédagogues, qui ont marqué toute la prise en charge éducative. Des sourds. Notre spécificité, si vous voulez, la formation d'un enseignant spécialisé ou d'un professionnel spécialisé qui travaille dans la maison, c'est pas qu'une formation disciplinaire, c'est ça ce qui nous différencie de nos collègues de l'éducation nationale, qui sont compétents en maths, qui sont compétents en histoire géo. Nous, certes, on a cette formation disciplinaire. Mon collègue, lui, travaille en plomberie. Bon, il est compétent dans son domaine disciplinaire qui est la plomberie. Mais en plus, notre compétence, c'est toutes ces compétences autour de la communication, de l'apprentissage de la parole, du langage, de la correction du langage. Faire avec aussi ces élèves qui ont un champ sémantique bien moindre que le bain de langage dans lequel on a été nous, qui nous permet d'avoir un champ sémantique très large. On accueille des enfants qui ont des profils bien plus complexes et qui peuvent aller bien au-delà de la surdité. Alors, ils sont sourds avec d'autres troubles associés, des troubles de comportement, des troubles d'apprentissage du langage, des troubles de mémorisation, etc. Bon, au-delà de la surdité, on va prendre en charge aussi toute une autre pathologie, voire des troubles psychologiques ou psychiatriques. Donc, on peut accueillir des enfants en grande difficulté. Un peu dans la suite de ces grands médecins, on a encore actuellement un médecin pédopsychiatre entouré de toute une équipe, un médecin ORL, donc des équipes fortes. Il n'y a pas que des pédagogues, il n'y a pas que des enseignants. Il y a tout un tas d'équipes qui accueillent des enfants qui sont sourds, certes, mais qui peuvent avoir beaucoup d'autres difficultés. Et souvent, la surdité est le prétexte à ce qu'ils viennent dans notre établissement, mais la prise en charge par l'équipe médico-psy, par exemple, est tout aussi importante.
Victor, l'enfant sauvage, avec les voix de Marc-Henri Boisse, Fernand Guillot, Jean-Pierre Tiercelin et Dolly Vanden, avec la participation de Michel Ball, bibliothécaire de l'Institut national des sourds, Thierry Ginest, psychiatre, auteur de Victor de l'Aveyron, dernier enfant sauvage et premier enfant fou, aux éditions Hachette Littérature, Dominique Albignac, directeur des enseignements de l'Institut des jeunes sourds, et Jean-François Duteil, directeur de ce même institut. Documentation, Les derniers enfants sauvages, de Lucien Malson, aux éditions 10-18. Reportage, Lucie Sarfati. Mixage, Noélie Pellegrin et Jean-Michel Després. Réalisation, Emmanuel Geoffroy. Si vous désirez correspondre avec nous, notre adresse électronique est toujours robert.arnaud@franceinter.com. Au revoir. À dimanche.